Bonjour à la marathon.
Bonjour Laetitia, quel plaisir que de vous retrouver.
Je ne sais pas, on verra ça tout à l'heure. Allez, direction ce matin, le département de la Seine-et-Marne, pour découvrir un château, c'est le château de Volvicomte.
Eh oui, un château situé à quoi? À une petite heure de Paris, qui mérite véritablement une visite. Volvicomte, c'est un château superbe, mais aussi et surtout un jardin d'exception voulu par le surintendant des finances, Nicolas Fouquet.
Un jardin conçu par votre copain, André Lenôtre.
Et je le connais bien. Ouais. Sachez que dès 1653, le futur jardinier de Versailles, on ne parle pas bien sûr de Baraton, on parle bien de André Lenôtre, va concevoir un parc à la française. Lenôtre aménage des terrasses sur trois plans successifs et il crée deux sublimes broderies de buis qui encadrent une allée, point de départ d'une perspective royale, n'en déplaise au roi soleil, malheureusement, car il y a un petit bémol, les pyrales, ces terribles chenilles qui s'attaquent au buis, ont fait d'énormes dégâts et les arbustes ont disparu. Alors en attendant...
Déjà à l'époque, les pyrales ?
Non, aujourd'hui. La broderie de buis a été créée donc sous Lenôtre, elle a été refaite sous Duchesne. Malheureusement, il y a quelques mois, et bien malgré les efforts des équipes de jardiniers, tout a été détruit. Et fort heureusement, l'équipe dirigeante de Volvicomte a eu l'intelligence de supprimer les buis, de mettre à la place une installation contemporaine, ce qu'on pourrait appeler une représentation moderne des buis. Mais c'est drôlement bien fichu. Quand on est en hauteur dans les appartements, on a toujours l'impression de voir le dessin merveilleux que faisait la réputation de cette broderie. Il n'y a plus de buis, mais finalement, c'est pas très choquant, c'est tout aussi beau.
Et il y a des statues qui ont été installées, c'est ça aussi, par Lenôtre ?
Attendez, des statues, des fontaines, une grotte, des cascades, des taupières et des bosquets. Rien n'est trop beau, voyez-vous, pour Nicolas Fouquet, jusqu'à ce jour, car il y a là un deuxième bémol, jusqu'à ce jour du 17 août 1661. Nicolas Fouquet a invité Louis XIV à Volvicomte, erreur. La fête est si grandiose, si incroyable, que le roi en est courroucé. Vous connaissez la suite, Fouquet est arrêté, jugé et condamné. Les jardins et le château sont abandonnés, et Jean de la Fontaine, qui était un ami de Fouquet et un habitué des lieux, en est si chagriné qu'il écrira « Remplissez l'air de cri en vos grottes profondes, pleurez nymphes de veaux, faites croître vos ondes ».
Alors, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui du domaine de Fouquet?
Alors, le parc de Volvicomte a traversé les siècles sans trop de dommages et beaucoup de vieux arbres ont été remplacés par de jeunes tilleuls bien prometteurs. À noter également ces petits panneaux qui indiquent à chaque végétal le nom du donateur. Je trouve que l'idée est astucieuse et que beaucoup de domaines devraient s'en inspirer. Alors, Volvicomte, c'est un jardin d'exception qui possède une âme. C'est une merveille qui égale en beauté Versailles et ses jardins, et je le pense honnêtement. Mais il fut pour Nicolas Fouquet un drame qui lui coûta la vie, et c'est Voltaire d'ailleurs qui en parle le mieux quand il dit « Le 17 août à 6h du soir, Fouquet était le roi de France. À 2h du matin, il n'était plus rien. »
Et le domaine, là, aujourd'hui, il est visitable tout le temps?
Alors, il est visitable tout le temps. Il faut y aller parce que quand on paye le droit d'entrée à Volvicomte, c'est privé, mais ça permet l'entretien, du jardin et du palais. Et inutile de vous présenter à la caisse pour dire « Baraton a dit que c'est gratuit », car je vous vois venir, ça ne marchera pas.
Ah, j'ai essayé. Alain Baraton, on passe aux questions des auditeurs. Il y a cette question de Sylvie. Mon abricotier planté il y a plus d'un an a fructifié cette année. Après 3 semaines d'absence, nous revenons et constatons que les feuilles sont toutes collantes. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer les feuilles collantes. Généralement, je vais dire que c'est de la fumagine, mais là, je n'y crois pas beaucoup. J'opterai plutôt pour la septoriose. La septoriose, ce sont des petites taches blanches qui vont se traduire par un feutrage. La septoriose, qui ressemble à de l'oïdium mais qui n'en est pas, épuise le végétal. Et quand le végétal est épuisé, il produit une sorte de gomme. Et je crois que la gomme plus la septoriose provoque, avec les piqûres d'insectes qui développent sur le végétal de la fumagine, l'ensemble combiné fait que les feuilles sont collantes. Autant vous dire que le problème est loin d'être réglé.
Ah oui, alors donc il n'y a quasiment pas de solution?
Non, parce que de plus, on n'a pas le droit d'utiliser cette année des produits toxiques, comme vous le savez. Donc il faut simplement aérer le cœur du végétal. N'hésitez pas en automne à tailler le centre de l'arbre pour que le soleil puisse intégralement caresser la ramure. C'est joli comme terme, caresser à propos du soleil. Voilà, et faire en sorte que le végétal pousse dans de bonnes conditions. Il y a quantité, le pêcher, l'abricotier, ce sont des arbres confrontés à quantité de produits. La cloque du pêcher, la septoriose, l'oïdium, la fumagine. On parle même parfois d'apoplexie pour ces arbres fruitiers qui sont capables de perdre une branche comme ça sans aucune raison. C'est pas évident de culture, du moins au nord de la Loire.
Cette question de Sylvie, encore une autre Sylvie. J'ai 4 lauriers en pot dont les feuilles sont tachetées de blanc depuis la sortie de l'hiver. Je constate que cela s'étend et elle ne sait plus quoi faire, Sylvie.
Alors là, voilà l'exemple typique, là j'y reviens. Là, il s'agit vraiment de septoriose. La septoriose, souvent on pense que quand il y a un feutrage blanc sur le laurier, il s'agit forcément de l'oïdium. Non, non, il peut aussi s'agir de septoriose. Et là, je sais que c'est celle de la septoriose. Il y a d'abord des petites taches blanches qui vont se creuser et la feuille va ensuite sécher. Donc là, on a affaire à un cas, comment dire, de septoriose. C'est dû à un excès d'humidité et à un excès de pluie. Humidité, pluie, chaleur égale, malheureusement, maladie cryptogamique.
On reste dans le domaine des arbres avec cette question de Martine, Alain Baraton. Mes tilleuls sont taillés tous les ans. Alors, elle met tonnelle. Donc, j'imagine qu'ils sont sous une tonnelle.
Ou taillés en tonnelle, peut-être.
Ah, taillés en tonnelle. Ah, comment ça va?
Peut-être, je pense qu'elle a voulu donner une forme architecturée à ces végétaux.
Ah, pour qu'on
je
puisse
pense.
Se mettre dessous de
je tilleul. Pense, oui.
D'accord. Et elle dit qu'elle souhaiterait conserver quelques branches pour avoir des fleurs et les cueillir chaque année. Est-ce que c'est possible?
Alors, il y a une expression que j'aime beaucoup qui est avoir la main verte. Mais je suis bien incapable de vous dire qu'en taillant un arbre, parce que le tilleul est un arbre comme le tilleul, on va garder une branche qui va être capable de fructifier, c'est pas donné à tout le monde. Je ne sais pas du tout si une branche qui est maintenue sur un arbre taillé est capable ou non de produire des fleurs et des graines, je ne sais pas. Là, c'est vraiment, on ne taille pas un végétal comme le tilleul avec cet espoir, oublier l'espoir de récolter des graines et des fruits sur un végétal ainsi présenté.
Mais comment ça, vous n'êtes pas omniscient, la marathon ?
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez un tilleul. Vous voyez à quoi ressemble un arbre comme un tilleul.
Ouais.
Vous taillez la majorité des branches. Comment voulez-vous savoir que les rares branches qui, elles, vont rester intactes, vont produire des fleurs ? Je suis jardinier, je ne suis pas ni devin ni sorcier.
Oh, d'accord. Alain Baraton, avant de se quitter, un livre?
Oui, Agir pour la biodiversité. C'est un ouvrage paru chez Plume de Carotte. Il est signé par Jean-François Noblet, un homme qui connaît le sujet. Pour tout savoir dans son jardin, pour accueillir et agir pour la biodiversité. Très joli bouquin, très bien écrit. Allez, je vous donne même le prix, 21 euros.
Merci beaucoup, Alain Baraton, et à demain.